Bienvenue dans Je suis prof de FLE, un podcast dédié aux profs de français en tant que langue étrangère et langue seconde, et aussi aux futurs profs de FLE. Moi, c'est Audrey Rousse-Malpa, enseignante et chercheure en didactique des langues à l'Université de Groningue aux Pays-Bas. Dans chaque épisode, je discute avec un expert de ce que la recherche nous apprend sur un thème choisi et de comment on peut mettre tout ça en pratique. Aujourd'hui, c'est l'épisode 1 et on va commencer avec Grégory Miras et on va commencer par parler prononciation. Grégory vient de l'Université de Rouen en France. Il est président de l'AFLA, qui est l'Association française pour la linguistique appliquée, docteur en didactique des langues, directeur du département des sciences du langage et didactique des langues à l'Université de Rouen-Normandie et maître de conférences. Et c'est vraiment un chercheur à suivre si vous aimez lire des articles scientifiques, car son travail s'inscrit vraiment dans le désir d'appliquer la théorie à la pratique. Comme par exemple son livre « Didactique de la prononciation en langue étrangère » aux éditions Didier. Bonjour Grégory.
Bonjour Audrey, merci beaucoup pour cette invitation.
Bienvenue à Groningen.
Merci, j'apprécie beaucoup d'être là avec vous pour tout au long de ce congrès mondial de linguistique appliquée.
Exactement, on est à Groningen et virtuellement, nous sommes aussi avec 2000 autres personnes qui suivent ce congrès. Et aujourd'hui, on va discuter un peu de la prononciation et surtout de ce que la recherche nous apprend sur la prononciation et comment l'appliquer dans les classes. Donc, la première question, un peu, c'est une question plus de personnelle. Donc, toi, la rencontre avec la linguistique didactique, c'était quand Le FLE et la prononciation, c'est venu comment?
Alors, en fait, ça s'est fait progressivement et de manière pas forcément réfléchie. J'hésitais en rentrant à l'université entre plutôt la biologie, donc les sciences du vivant et les langues. Et finalement, bon, je suis allé faire une licence d'anglais. Donc, je me suis dit que finalement, ce que j'aimerais faire, c'était soit enseigner l'anglais, soit pouvoir enseigner le français à l'étranger, principalement dans un monde anglophone. Pour faire cela en France, donc il faut principalement aller vers le français langue étrangère. Et c'est une spécialisation qui s'organise souvent plutôt en fin de licence, donc en troisième année de licence. N'ayant pas pu faire cette formation, je suis allé faire une sorte de rattrapage à l'université de Grenoble l'été, ce qui m'a permis ensuite de rentrer en master 1 en français langue étrangère et sciences du langage. J'ai ensuite continué en master français langue étrangère à Paris. Et ayant fait un master recherche, je me suis pris dans l'engrenage de la recherche et de la découverte de ce monde-là. Et donc, j'ai continué directement en doctorat. Donc, finalement, je n'ai pas vraiment réalisé aucun de mes projets initiaux parce que donc, je ne suis pas retrouvé dans un pays anglophone forcément, même si je continue à cultiver mon amour pour la langue anglaise. Et finalement, j'enseigne partiellement le français langue étrangère, mais je forme surtout des futurs enseignants de français langue étrangère ou des spécialistes des langues en général. Donc, on a, par exemple, quelques orthophonistes qui sont au début de licence et ce genre de choses.
Ah, d'accord. Donc, et la biologie, ça t'a apporté quoi, finalement?
Finalement, quand même, en sciences du langage, et notamment quand on s'intéresse à la prononciation, on retrouve un certain nombre d'éléments, notamment articulatoires ou physiologiques, qui sont importants de comprendre, et aussi en termes d'évolution de la physiologie humaine qui nous permet de parler. Et donc, il me semble que c'est important, en tout cas, cette pluralité ou cette transdisciplinarité qui nous permet d'aborder la linguistique sous un jour différent. Et quand même aussi la biologie, en tout cas telle qu'on la pratique en France, au lycée, il y a toute une méthode d'analyse des données via l'analyse, l'interprétation, les conclusions qui m'ont beaucoup aidé à organiser, en tout cas, ma pensée scientifique.
Donc, rien n'est perdu.
Non, tout se recycle.
Tout se recycle, oui. La prononciation, dans ton livre, tu le qualifies au début du parent pauvre de la didactique. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce que tu veux dire par ce terme?
Alors, plutôt que de le qualifier, moi, de parent pauvre, en réalité, je le reprends d'un certain nombre d'auteurs ou en tout cas d'articles qui introduisent souvent la prononciation comme étant le parent pauvre de la didactique des langues en France. Alors, il me semble qu'il y a toute une histoire finalement à retracer de la place de la prononciation à la fois dans la linguistique, les sciences du langage et la particularité de la didactique française. Et il est vrai, et on le reconnaît en tout cas, que ce soit dans les productions anglophones comme les productions francophones, qu'à partir des approches communicatives, tout ce qui a trait en tout cas à la prononciation a tendance à être moins ou peu traité, puisque le principe de base est de dire que si on arrive à réaliser une interaction humaine, la prononciation finalement, ou quelques petites variations dans la prononciation, ne posera pas de difficultés à partir du moment où on est capable de compenser par des éléments pragmatiques. Néanmoins, ce qu'on retrouve largement dans les analyses, c'est que malgré cette approche-là, quand la prononciation est traitée, elle est plutôt traitée via le biais du behaviorisme, donc de Skinner, etc. Et donc, il y a une forme moi, ce que j'ai appelé une rupture épistémologique qui s'est créée entre finalement une approche dominante qui a du mal à théoriser la place de la prononciation dans l'approche générale de l'apprentissage des langues. Alors, on retrouve des choses. On a la compétence phonologique dans le CECRL, mais qui est assez maladroite, à la fois en termes de concepts qui sont retenus et de progression. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce CECRL au niveau de la phonologie. Également dans son amplification en 2018, mais qui finalement répond ou ne répond pas totalement non plus encore aux besoins, et donc qui pose cette question-là toujours de qu'est-ce qu'on fait de la prononciation dans l'apprentissage global. Et en tout cas, voilà, le fait de considérer la prononciation comme un parent pauvre vient de ce point de rupture, en tout cas avec l'émergence des approches communicatives. C'est d'autant plus vrai dans la recherche française et en France, je pense, que la didactique des langues, DDL, s'est séparée finalement de la linguistique, en tout cas a voulu se faire reconnaître en tant que discipline et a parfois perdu en tout cas des outils qui étaient peut-être nécessaires aux enseignants et aux didacticiens pour analyser la prononciation. Et c'est certainement un peu moins vrai, en tout cas dans le monde de la recherche anglophone, où la linguistique appliquée, justement Applied Linguistics, fait que on a un continuum entre language teaching and learning et ce qu'on appelle linguistics, qui est beaucoup plus cohérent, en tout cas, et beaucoup plus uniforme, même si, bien sûr, bon, on retrouve d'autres choses dans le monde anglophone. Et notamment, donc, j'ai mené une analyse de corpus à partir d'articles anglophones et francophones entre 2010 et 2017. Et ce qu'on retrouve, en tout cas, dans les littératures anglophones, c'est qu'il y a peu d'articles dans les grandes revues généralistes, il y a peu d'articles sur la prononciation et on les retrouve surtout dans des journaux spécialisés. Donc en fait, pour moi, la prononciation n'est pas un parent pauvre, mais c'est un parent qui est un petit peu éloigné ou en tout cas qui a créé sa maison et qui vit un peu de son côté.
Un peu un résultat d'une histoire un peu compliquée aussi en France, qui est différente de l'histoire des pays anglophones où ici aux Pays-Bas, on a une tradition très anglophone, finalement, dans la recherche.
Oui, oui.
On va parler de plusieurs thèmes importants. Tu viens de parler de la théorie de Skinner, du behaviorisme. Comportementalisme, on pourrait dire, qui est le fait de créer une habitude. Est-ce que tu peux nommer un type d'exercice qui s'ancrerait dans cette théorie?
Oui, alors, pour le behaviorisme, c'est finalement très facile parce que la plupart des manuels et des exercices, quand on propose des exercices dans les manuels, c'est quasiment toujours ou presque toujours, pour ne pas trop généraliser, des exercices issus du behaviorisme. Donc, ce sont les exercices du type « j'écoute un son et je dois déterminer s'il est deux sons ». S'ils sont identiques ou différents. Voilà, ce sont tous les exercices que l'on retrouve majoritairement dans les manuels pour la prononciation ou dans les manuels généralistes qui proposent des exercices d'écoute ou de production, voire répétition, imitation de sons à partir d'un audio.
Donc, c'est de l'imitation de la production hors contexte, beaucoup de répétition, création d'une habitude, en fait.
Oui.
Et est-ce que ça marche?
Alors, oui, ça marche. Il y a une très belle étude qui a été, une méta-étude qui a été faite par Lee et ses collègues qui montre que, quels que soient les éléments de la prononciation, que ce soit segmental, suprasegmental ou autre, on peut travailler dessus et ce genre de travail behavioriste ou répétitif fonctionne. Mais elle a un inconvénient principal, c'est que justement, c'est répétitif, ce n'est pas dans un contexte qui a du sens Et donc, la plupart des apprenants ont tendance à vouloir ne pas faire ce genre d'exercice-là. Et donc, finalement, l'apport est très limité puisque l'investissement et la dimension sociale n'est pas dans ces exercices-là.
Et pour toi, c'est important d'intégrer aussi cette dimension sociale ?
Il me semble qu'il est important d'avoir cette complémentarité, en tout cas, entre des objectifs et des approches, avec notamment les deux grandes approches que moi, je mets en complémentarité, qui est plutôt le socioconstructivisme et le behaviorisme. Parce qu'encore une fois, déjà, ce qui est important pour moi de prendre en considération, c'est d'une part le profil des apprenants et leurs objectifs. Et bien sûr, un apprenant pour lequel il y aurait un objectif professionnel dans lequel on sait qu'un accent pourrait être discriminatoire pour trouver un emploi, forcément, on va devoir mettre en place des exercices de type behaviorisme parce que ce sont les seuls qui permettront de remodeler finalement le système phonologique pour être capable de les produire et de les percevoir tels que la norme, en tout cas, tels qu'on les attend pour la norme.
On va parler de plusieurs thèmes comme accent, prosodie, intonation, variation. Est-ce que tu penses à d'autres termes importants ?
Alors, les deux grands thèmes actuels qui reviennent, c'est compréhensibilité et intelligibilité. Mais sinon, oui, ce sont des termes centraux dans les questions didactiques de la prononciation.
Et donc, pour toi, est-ce que tu pourrais peut-être donner une petite définition des termes comme accent, prosodie, intonation pour nos auditeurs ?
Alors, le terme prosodie, c'est plutôt un terme qui est finalement qui regroupe plein de choses. Et donc, à l'intérieur de la prosodie, on a ce qu'on appelle les éléments suprasegmentaux. Donc, ce sont des éléments qui vont, pour simplifier encore une fois, se rajouter à tous les éléments segmentaux. Donc, les éléments segmentaux sont, encore une fois, pour simplifier, les voyelles, les consonnes, les sons vocaliques, les sons consonantiques. Donc, on va rajouter dessus un substrat, ce qu'on appelle le suprasegmental, et qui va permettre de donner un certain nombre de variations. Alors, pour se limiter au français, ce sont principalement des variations, par exemple, expressives ou démarcatives. Donc, expressives qui permettent je peux dire « Oh là là, il fait beau aujourd'hui !» ou « Oh là là, il fait beau aujourd'hui !» Forcément, je vais donner une expression qui va être différente, alors que la matière linguistique, elle, est la même. Ou démarcatives, puisqu'en français, la particularité du français, c'est que l'on travaille sous des groupes rythmiques. Donc là, quand je parle, vous pourrez entendre, je fais la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Donc à la fin de chaque groupe rythmique, j'ai un allongement et une pause ou une micro-pause. Et donc ici, la prosodie, elle permet de démarquer chaque groupe rythmique. Donc voilà la prosodie, et à l'intérieur de la prosodie, on va avoir des sous-ensembles. Donc ça peut être, justement, tu parlais d'intonation, donc on retrouve l'intonation comme une sous-composante de la prosodie. On a la durée, comme je l'ai indiqué à l'instant. En français, la durée est très importante parce que c'est ce qui permet de marquer les fins de groupe rythmique. Donc un francophone ou quelqu'un qui est habitué au français, justement, va chercher ces allongements pour lui signaler qu'on est à la fin de quelque chose. Alors, soit une fin totale en fin de phrase, par exemple, ou d'énoncé, soit on va passer à d'autres éléments. On va avoir, donc, bien sûr, le rythme, qui va être une sous-composante de la prosodie. Et on a un élément que, moi, j'aime bien faire des jeux avec mes futurs enseignants de français langue étrangère. Donc, je leur demande de se rappeler les sous-composantes de la prosodie. Et il y en a toujours un qu'ils oublient, c'est le silence, ou ce qu'on appelle les pauses. Les pauses sont vraiment très importantes. Alors, d'autant plus en français, vu qu'on a ce qu'on appelle un moteur qui est à la fin des groupes rythmiques. Donc, la dernière syllabe du groupe rythmique est celle qui est importante. Donc, finalement, notre cerveau, il va écouter tout ce qui se dit jusqu'à la dernière syllabe. Et c'est à partir de la dernière syllabe où il va revenir en arrière pour se dire, voilà, je vais redonner du sens sur tout ça. Et on le retrouve notamment, par exemple, sur la musique, puisque j'ai travaillé sur les liens entre musique et parole pour ma thèse de doctorat. Dans la musique, c'est la même chose. Les pauses sont très importantes parce que c'est le moment où le cerveau va analyser de manière rétro tout ce qui a été dit avant. Donc voilà, donc pour la prosodie, on a ces différentes composantes. Et concernant l'accent, je vais utiliser les termes que moi j'utilise dans le livre qui sont un petit peu spécifiques, mais c'est un ensemble de productions qui ne sont pas conformes à la norme attendue. Donc, par exemple, pour le français, on peut retenir le français de référence. Donc, ce sont toutes les variations phonético-phonologiques qui vont être, à un moment donné, stabilisées. Donc là, on revient plutôt sur la théorie des systèmes dynamiques et la théorie du chaos. Donc à un moment donné, ça va se stabiliser, ce système-là va se stabiliser autour d'attracteurs. Alors en général, quand on apprend le français avec une langue première, les attracteurs sont souvent liés à la langue première. Si on apprend le français comme troisième langue, par exemple un mandarinophone qui va apprendre l'anglais en deuxième langue et le français en troisième langue, on pourra peut-être trouver des attracteurs qui seront un mélange entre des éléments de l'anglais et du système phonologique du mandarin. Voilà, donc l'accent, c'est le fait de, à un moment donné, stabiliser des productions phonético-phonologiques qui sont non conformes à une norme. Alors, soit la norme de référence, comme je disais, mais ça peut être d'autres normes de la francophonie. Hein. Ça peut être, bien sûr, le français du sud de la France, du sud-est, du sud-ouest, du nord. Ça peut être la variété du Québec, belge ou suisse. Voilà, donc. Et donc, ces éléments-là vont stabiliser à un moment donné sous l'influence de, souvent, les langues que l'on connaît précédemment, en fonction d'un certain degré, soit parce qu'elles sont proches linguistiquement ou soit parce que c'est celles qu'on maîtrise le mieux.
Et c'est important de comprendre tous ces mécanismes qui jouent derrière le développement de la prononciation ou la stabilisation de l'accent, parce que plus on comprend ces mécanismes et mieux on peut penser à des activités en classe pour aider nos élèves à améliorer la prononciation. Mais la première question aussi qu'on se pose, c'est est-ce que c'est un but en soi d'améliorer la prononciation ou est-ce qu'il faut seulement être compréhensible? La limite est difficile à trouver aussi en classe quand on entend nos élèves dire « il parlant » ou « commente » en prononciation les T ou les S à la fin. En tant que prof du français, on a tendance à vouloir corriger ça immédiatement. Donc, à quel point c'est important d'avoir un bel accent, mais aussi un accent compréhensible?
Alors, c'est une très bonne question, bien sûr, et c'est souvent la question que l'on pose quand on est justement sur le terrain et qu'on a besoin de réponses concrètes face à souvent des approches théoriques qui sont très complexes elles-mêmes et donc qui n'apportent pas de réponses directes. En tout cas, ma position, je crois, elle est aussi de venir dédramatiser les choses auprès des enseignants qui peuvent avoir justement cette position de penser que une production non conforme à la norme va être problématique en soi. Alors déjà, comme je le disais tout à l'heure, on a des éléments pragmatiques qui vont venir compenser. Et donc, il me semble important, peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure, d'amener les apprenants à prendre conscience qu'il y a d'autres éléments. Alors, soit la multimodalité, la lecture labiale, ça peut être les expressions, ça peut être le contexte sur lequel on va s'appuyer pour venir, en tout cas, complexifier et faciliter la compréhension à travers ces éléments contextuels. Mais pour répondre à ta question très concrètement, je dirais que, d'une part, la première chose, c'est vraiment de faire une évaluation diagnostique, mais pas... Enfin, on va faire une évaluation diagnostique de la production segmentale et suprasegmentale, mais c'est d'abord une évaluation diagnostique des objectifs des apprenants. Qu'est-ce qu'ils veulent faire avec le français ? Donc, à partir de ça, on va déjà voir qu'il va y avoir deux trajectoires qui vont s'ouvrir. On a les trajectoires qui vont être plutôt justement correctives, parce qu'on va avoir des apprenants qui ont soit un objectif professionnel dans lequel on sait que l'accent pourra poser des difficultés. Alors maintenant, il y a tous les travaux sur la glottophobie, donc les discriminations liées à l'emploi des langues. Et donc, on sait, par exemple, on a un certain nombre de figures qui montrent que dans le journalisme, il a été très longtemps difficile de pouvoir, par exemple, journaliste politique en ayant un accent du sud-ouest. Donc, c'est le cas de Jean-Michel Apathy, par exemple. Mais vous pouviez très bien être commentateur sportif, parce que commentateur sportif avec l'accent du sud-ouest, c'est très bien, ça rappelle le rugby.
Voilà, surtout quand on commente le rugby.
Voilà. Mais commentateur politique, c'est pas sérieux. Et donc, on sait... Alors, c'est des constructions sociolinguistiques, d'accord ? Donc, c'est pas quelque chose... On va pas dire oui, c'est vrai ou non, c'est pas vrai, mais c'est une réalité. Et donc, il faut aussi préparer nos apprenants à cette réalité-là. Donc, il y a une trajectoire qui va s'ouvrir. Ça peut être aussi parce qu'on a tendance souvent à axer nos enseignements sur des aspects très pratiques ou professionnels, mais on a aussi des apprenants qui aiment tout simplement le français et la langue française telle qu'elle a été développée, en tout cas de manière très... par la littérature, par exemple. Et on a aussi des apprenants qui aiment le français de référence et donc qui ont envie de l'apprendre en tant que tel. Donc ça, c'est une trajectoire. Et donc là, on va pouvoir aborder quelque chose peut-être d'un peu plus correctif pour atteindre cet objectif-là. Néanmoins, on va avoir un deuxième chemin qui va être un chemin d'apprenants qui voilà, vont apprendre le français soit parce que c'est dans leur curriculum, donc c'est quelque chose qu'ils aiment, mais sans forcément en ayant quelque chose qui va venir après. On peut avoir des apprenants qui sont tombés amoureux ou amoureuses d'un français ou d'une française ou d'une personne d'un pays francophone. Et donc, dans cet aspect-là, il me semble quand même que, alors bien sûr, la compréhensibilité, c'est important, mais comme je le disais, il y a des stratégies de compensation quand on fait ce qu'on appelle des erreurs de prononciation ou des productions non conformes à la norme. Mais il ne faut pas que ça se fasse, selon moi, au détriment de se sentir légitime et de se sentir à l'aise dans la production du français. Et donc, avec eux, il me semble important de les aider à construire une identité francophone qui leur permet de se sentir bien et à l'aise avec leur accent, s'ils souhaitent le garder, ou peut-être après, travailler sur leur accent. Mais au début, déjà leur dire, voilà, on peut avoir un accent, être tout à fait compréhensible, on peut avoir un accent et compenser avec d'autres choses, et vous serez tout aussi légitime. Mais bien sûr, dans l'interaction, ben, on va être identifié par ces marqueurs-là. Et un exemple que je donne toujours, moi, en tant que francophone, donc qui vient du sud-est de la France. Alors, ça s'entend parfois un tout petit peu.
Moins que moi, qui viens du sud-ouest de la France.
Donc, j'ai perdu un petit peu mon accent. Et l'été dernier, je suis allé dans le sud de la France, plus vers Montpellier. Et on allait faire le marché. Et je sentais bien qu'on ne me traitait pas de la même manière avec mon accent de Paris, on va dire, pour simplifier les choses. Et donc, je faisais exprès sur le marché à reprendre mon accent du sud pour montrer et dire, voilà, je fais partie du groupe, donc prenez-moi comme un membre de votre communauté. Et donc, ça aussi, c'est un élément qui peut être intéressant à travailler les apprenants, de leur faire prendre conscience qu'en fonction de l'accent ou d'une variété qu'ils vont aborder, mettre en production, ça va créer des affiliations ou des choses différentes avec les interlocuteurs qu'il aura en face.
Tout à fait. Et je me pose aussi la question au niveau de l'évaluation de la prononciation. Si on veut créer une identité, si on veut que nos apprenants créent une identité par rapport à la prononciation, à leur accent, et tout en étant compréhensible, nous, ça va créer beaucoup de variations finalement entre nos apprenants. On a vu qu'il y avait beaucoup de variations dans la L1, dans la première langue déjà, mais il y a aussi beaucoup de variations quand on parle une L2. Et dans notre classe, on aura des élèves qui arriveront très bien à prononcer le R, d'autres qui prononceront le en et le un de la même façon parce qu'ils n'entendent pas non plus la différence. Et au point de vue de l'évaluation, si tous mes élèves vont passer le DELF, par exemple, ça pose un petit peu le problème des grilles d'évaluation. Est-ce que ces grilles d'évaluation, selon toi, elles peuvent encore être améliorées sur ce point-là?
Alors, il est vrai, là, je prends ma casquette purement, pour ceux qui me connaissent, j'ai toujours une casquette, mais là, je prends une autre casquette virtuelle, ou en fait, métaphorique. Je mets de côté, alors, je sais que pour les enseignants, c'est quelque chose qui est central quand même, enfin, en fonction des terrains, bien sûr, mais qui est souvent quand même quelque chose de central pour les apprenants, parce qu'on leur demande des certifications. Mais là, avec ma position, en tout cas, de chercheur, il me semble important de rappeler que un curriculum ne doit pas être centré sur la réussite, en tout cas, d'une certification. Encore une fois, je mets des parenthèses dans le sens où on a des apprenants qui viennent dans nos cours parfois parce qu'ils doivent réussir une certification. Et donc là, on fait une préparation à la certification. Mais de manière générale, il me semble important que nos curriculums ne soient pas centrés sur la certification parce que normalement, une bonne certification doit permettre justement de donner un niveau à partir de compétences qui sont déjà mises en application en dehors de la certification elle-même. Donc, je ne vais pas peut-être traiter directement la certification parce que, comme je viens de le dire, je pense que dans la question de la certification elle-même, on est sur une préparation particulière qui est adaptée à la certification elle-même. Cependant, pour répondre à ta question sur l'évaluation précise, je vais y répondre sous deux angles. Et bon, je suis désolé, je réponds toujours sur plusieurs angles. Il y a le côté évaluation formative. Donc, dans l'évaluation formative, on peut très bien revenir sur ce que tu dis et faire des exercices qui sont des exercices pour vérifier si un élément a été maîtrisé. Donc, je dis n'importe quoi, mais j'ai travaillé sur l'opposition « u » « ou ». Je peux très bien faire un exercice d'évaluation formative sur ce point-là pour voir où en sont les apprenants. Par contre, pour l'évaluation sommative, alors, encore une fois, tout dépend de la position qu'on a, mais je sais qu'ici, à Groningen, vous avez cette position plutôt task-based learning. Dans ce contexte, ça fonctionne très bien. L'évaluation sommative, en tout cas dans mon cadre et dans le cadre de l'approche par tâche, on évalue la tâche. Et donc, finalement, la question de la prononciation va être évaluée sous l'angle de est-ce que ça a été un enjeu dans la validation de la tâche sociale elle-même ? Donc, si oui, dans ce cas-là, on l'intègre dans l'évaluation et sinon, ben, ce n'est pas grave et ça pourrait être mis en application dans d'autres tâches. Et donc, il est vrai que, par exemple, on a monté avec Audrey et Christine Vidon donc, de Groningen des tandems entre des étudiants français et des étudiants de Groningen. Et donc, si dans ces interactions, dans ces tandems-là, la prononciation peut amener à des situations problèmes, on va les thématiser, on va travailler dessus. Et à partir du moment où la production finale est validée, dans ce cas-là, la prononciation ne va pas être retravaillée, forcément.
Oui, donc ça fait partie intégrante de l'évaluation, ça fait partie de la grille d'évaluation. La critique que l'on entend souvent, et même le problème pratique, c'est la subjectivité de ce point-là dans l'évaluation. Même si on prend une approche par les tâches et qu'on utilise comme référence le CECRL ou qui décrit bien la prononciation à chaque niveau, il reste quand même un élément assez subjectif. Qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce que nous, profs formés, on est capable de se faire confiance et de suivre ces grilles d'évaluation ?
Alors, je suis toujours un petit peu provocateur. Alors, je vais dire que toute évaluation est forcément subjective. Et ça, on peut rien y faire. Et j'aime bien toujours rappeler, c'est une étude, alors j'ai plus les auteurs en tête là exactement, mais on les retrouve dans le livre, qui nous rappelle que, par exemple, pour stabiliser une note, donc en faisant la moyenne de tous les évaluateurs, donc on a une note qui va avoir peu de variations. Pour une dissertation de philosophie, il en faut à peu près 100. Donc, il faudrait 100 évaluateurs pour une seule copie pour avoir une note qui soit à peu près stable par rapport à la copie elle-même. Et donc, on se dit, bon, bah, c'est de la philosophie, donc c'est quelque chose qui est plutôt mou, donc c'est quelque chose qui a beaucoup de variabilité. Et donc, en mathématiques, où on se dit, voilà, mathématiques, on a la bonne réponse ou on n'a pas la bonne réponse, eh ben, la même étude, elle a montré qu'il fallait au moins 10 évaluateurs en mathématiques pour pouvoir stabiliser la note. Donc voilà, bon, c'est un petit exemple qui permet de montrer que dans tous les cas, une évaluation sera forcément subjective parce qu'il y a des biais et nous sommes les premiers biais. Alors, il y a quand même des éléments qui nous permettent de venir un peu contrebalancer cette subjectivité-là. Mais il me semble, dans tous les cas, important de comprendre qu'il y a une subjectivité et qu'elle est partie intégrante de cette évaluation, mais que dans tous les cas, aussi, l'enseignant a une expertise qui lui permet de réduire cette variabilité, donc avec différentes stratégies. Pour la question de l'oral et de la prononciation, il y a deux principaux outils qui nous permettent de limiter ces biais. Le premier, c'est de toujours enregistrer les productions orales pour pouvoir les réécouter plusieurs fois. Une seule écoute n'est pas suffisante, ou en tout cas, il y a trop de biais d'écoute sur une seule écoute. Encore une fois, c'est quelque chose qui est lourd, qui est long pour les enseignants, et les enseignants n'ont pas forcément les ressources, le temps. Et ce n'est pas forcément reconnu non plus par les institutions. Et le deuxième, qui est normalement le point qui est qui permet en tout cas de limiter le plus de variations, mais c'est très peu fait, encore une fois, parce que ça pose de gros problèmes d'organisation, c'est d'avoir plusieurs évaluateurs pour la même production. Donc, par exemple, 3 évaluateurs qui écoutent la production, qui a été enregistrée, ce qui permet normalement de réduire. Mais bon, quand on est dans sa classe, qu'on est tout seul devant ses étudiants, première chose, on sait que c'est subjectif, c'est pas grave. Deuxième chose, on enregistre les productions pour pouvoir les réécouter au moins 2 ou 3 fois avant de donner une note. Et ensuite, on se fait sa propre grille. Mais je pense que tous les collègues se reconnaîtront. On fait souvent notre grille. Et puis, quand on a fait la grille, on l'a complétée. On se dit, oui, mais là, je vais quand même peut-être rajouter un petit point ou un petit demi-point.
Faut que les grilles soient un peu flexibles quand même.
Voilà, quand même.
Pas trop rigides. Mais tes exemples, ils montrent aussi l'importance de travailler en équipe en tant que prof. On est plus fort à plusieurs. Faire les oraux à deux profs, par exemple, enregistrer et re-regarder de son côté, ça amène une note peut-être plus objective ou une évaluation de, entre autres, la prononciation plus objective, j'imagine.
Oui, tout à fait. Mais encore une fois, voilà, on est dans des réalités de terrain et donc il est important aussi de reconnaître qu'on a un monde idéalisé dans lequel les choses se passeraient très bien, mais dans la réalité, on sait que c'est beaucoup plus compliqué et que donc on se retrouve souvent tout seul face à ses copies ou face à ses exposés et on doit devoir les gérer mieux que possible.
Ce que je voudrais faire avec toi maintenant, c'est passer en revue un petit peu les représentations que tu cites dans ton livre. En tant qu'apprenant, puis en tant que prof en formation, on arrive avec beaucoup de représentations, qu'elles soient vraies ou fausses, sur la prononciation en classe de FLE. Avant de les passer en revue, elles viennent d'où ces prononciations, ces représentations, pardon, qu'on a ?
Alors, il est vrai que dans le livre, et bon, c'est une petite critique que j'ai reçue et je l'accueille et je vais la repréciser ici, ce ne sont pas que des représentations dans ce que j'ai repris. Donc, par exemple, il y a, quand je parle du crible phonologique, ce n'est pas une représentation, c'est juste que je revisite le concept de crible phonologique à l'aide d'autres théories, donc plus récentes que celles du crible phonologique. Donc, c'est vrai que j'ai mélangé beaucoup de choses dans un petit paquet. En tout cas, ces représentations, je les ai... Alors, elles ressortent finalement de mes expériences avec mes propres étudiants, enfin, enseignants en formation. Donc, c'est des choses que l'on entend quand on lance une activité avec eux, par exemple de création d'exercices. Donc, c'est des choses que j'entends ou que je lis dans les copies de mes enseignants en formation. On peut en retrouver certaines aussi dans la littérature scientifique, alors plus ou moins contemporaine. Il y a des choses, voilà, qui ont été dites il y a assez longtemps et qui finalement se retrouvent encore parce que on le répète, parce que ce n'est pas forcément faux, encore une fois, mais il y a des choses que, en tout cas, les connaissances actuelles et notamment les connaissances dans les neurosciences nous permettent de mieux expliquer, mieux définir ou préciser.
De nuancer un peu plus.
De nuancer, oui.
Oui. On va commencer par la première qui est « Il faut parler comme un natif ». On en a parlé un petit peu, on peut en reparler, mais on peut aussi peut-être se demander est-ce que c'est important que le prof soit natif lui-même ?
Alors, sur le natif, encore une fois, pour être très provocateur, je dirais que je ne sais pas ce que c'est, donc je ne peux pas répondre à ta question. pour sortir ensuite de cette remarque juste provocatrice, concernant les enseignants, en tout cas, c'est très clair. Il y a une très belle littérature sur le sujet. Il est clair qu'en termes d'apprentissage, un enseignant natif n'aura pas une supériorité. En tout cas, un étudiant qui a un enseignant natif ou dit non natif, alors ce sont des termes que je ne retiens pas, mais ici, pour simplifier le propos, je vais les réutiliser, ne va pas avoir de différence significative sur le niveau final obtenu par les apprenants. Par contre, ce qui est vrai, et c'est toujours une forme aussi de violence symbolique, c'est que dans la réalité des recrutements ou dans la réalité de la relation des attendus des étudiants ou des apprenants, ils attendent souvent d'avoir un enseignant dit natif plutôt qu'un enseignant non natif, et notamment pour des niveaux avancés. Il est vrai que pour les niveaux avancés, les institutions et les étudiants ont tendance à vouloir privilégier un enseignant dit natif. Et quand je dis dit natif, c'est quand même plutôt français. Alors, pour le français langue étrangère, c'est la France métropolitaine. Hein. On ne va pas chercher...
Pas beaucoup de variations.
Et voilà. Donc, par contre, là, encore une fois, il est important de retenir que ce n'est pas parce que moi, je dis en tant que chercheur et que la littérature dit qu'il n'y a pas de différence que les enseignants ne vont pas se sentir soit en insécurité linguistique ou également cette insécurité linguistique pour les enseignants, elle peut exister parce qu'eux-mêmes aimeraient aller vers une production conforme à la norme. Donc ça aussi, il faut le prendre en considération qu'on a ces phénomènes-là de va-et-vient liés à cette représentation de la norme.
Est-ce qu'il faut avoir commencé à apprendre le français en tant que langue étrangère à un âge précoce pour avoir une bonne prononciation ?
Alors, encore une fois, c'est une question qui est très large, mais je pense qu'en tout cas, si je dois répondre de manière très simple à cette question, je dirais non, il n'y a pas besoin. Alors ensuite, comme toujours, on doit nuancer. D'ailleurs, on en parlait ce matin dans le congrès de l'AELA, donc dans un symposium sur la prononciation. Je pense que pour cette question, il est très important de dissocier deux choses. D'une part, ce qui est de l'ordre du neurocognitif et ce qui est de l'ordre du, on va dire, psychocognitif, voire pragmatique. Il y a beaucoup d'études sur le sujet qui tentent à montrer qu'en tout cas, les langues que l'on a apprises donc avant ce qu'on appelle la période critique ou enfin, la période sensible qui est plus jeune, les études pour la période critique se tournent autour de l'âge de 10-15 ans. Donc, ça serait potentiellement la période après laquelle il serait très difficile ou plus difficile ou impossible d'apprendre une langue étrangère sans avoir d'accent. Donc la littérature, ce qu'elle tend à montrer, c'est que si on apprend ou on écoute, on est sensibilisé à une langue étrangère avant la période critique, on a des structures neurologiques qui vont se mettre en place, qui sont spécifiques et qui sont presque similaires à la langue première, si bien sûr on l'entretient. Si j'ai entendu de l'anglais pendant 2 jours quand j'étais enfant, ça ne va pas transformer mon organisation cérébrale. Bien sûr, il faut que ce soit répété, qu'il y ait une implication émotionnelle, sociale, pragmatique. Et c'est là où il me semble important aussi de faire attention à la manière dont on implique les sciences cognitives et les neurosciences dans la didactique. C'est que ce n'est pas parce que notre cerveau fait ça qu'en termes de performance, je n'ai pas des stratégies compensatoires qui me permettent d'arriver au même niveau. Et donc, la réponse à cette question, c'est de dire que oui, même tardivement, on peut arriver à... Alors, je ne vais pas dire gommer son accent, je vais dire arriver à produire un accent normé. Mais peut-être, il est vrai quand même que ça demandera peut-être plus d'énergie, aussi de tirer profit de ce qu'on sait déjà, alors plutôt des compétences métacognitives, par exemple. Mais il y a plusieurs exemples d'apprenants tardifs qui ont réussi à obtenir un accent normé francophone. Mais quand même, le seul bémol que je mettrais quand même, c'est avec les apprenants très tardifs, on va dire âgés, il semble moins probable et donc il est peut-être important dès le début de déconstruire cette notion du natif pour ne pas qu'il y ait une sorte de blessure narcissique à se dire, voilà, on imagine qu'il y a 5% qui vont y arriver, mais les autres, voilà. Et c'est pour ça qu'il me semble encore une fois important de développer la sécurité linguistique avec un accent.
Oui, ça revient à ta question d'identité, la création de son identité en tant que locuteur du français en langue étrangère et de se sentir confortable avec cette identité. On va faire une autre présentation et je ne vais pas pouvoir toutes les faire parce qu'elles sont très intéressantes et on pourrait en parler encore des heures, mais j'invite vraiment les auditeurs à aller regarder dans ton livre. Une que j'aime bien aussi, c'est « Plus un son est différent de la langue maternelle, plus il est difficile à apprendre ». Et ici, aux Pays-Bas, il y a aussi une autre différence, c'est que les locuteurs ont la langue maternelle néerlandais. Et en néerlandais, on prononce ce qui est écrit, toutes les lettres. Il n'y a pas trop de différence entre l'oral et l'écrit, alors que la différence est claire en français. Donc, qu'est-ce que tu pourrais dire sur cette représentation ? Plus un son est différent de la langue maternelle, plus il est difficile à apprendre.
Alors, c'est encore une fois un aspect très complexe de la mise en place, justement, d'un nouveau système phonologique. Cette affirmation, en tout cas, elle découle directement des principes du crible phonologique, finalement, en tout cas, de la métaphore. Et encore une fois, je fais bien attention à dissocier ce que disaient Paul Ivanov et Trubetskoy sur le crible ou filtre phonologique.
Est-ce que tu peux donner une petite définition du crible phonologique ?
Oui, alors, le crible phonologique, tel qu'il a été théorisé à la base, c'est de dire que lorsque l'on entend une langue étrangère, le filtre du système phonologique de notre langue première. Donc, tous les sons de la langue étrangère vont passer par ce filtre phonologique de la langue première. Et donc, les unités sonores qui n'existent pas dans la langue française, dans la langue première, pardon, ne vont pas être retenues. Voilà, c'est un peu le principe. Quand on passe quelque chose dans un filtre, il n'y a que ce qui est le plus petit qui va passer. Et donc, le plus petit, c'est ce qui est similaire à la langue première. Donc, selon la métaphore du crible phonologique, toutes les formes phonético-phonologiques qui n'existent pas dans la langue première ne passeront pas dans le crible. Et donc, notre cerveau ne va entendre que les sons de la langue première, donc en les assimilant les uns aux autres. Je donne toujours l'exemple hispanophone parce que ça parle quand même à beaucoup. Donc, un hispanophone qui entend un « u », selon la théorie du crible phonologique, entendra un « ou » parce que le « u » n'existe pas en espagnol. Voilà. Maintenant, alors à la fois par mon expérience en tant qu'enseignant et formateur en prononciation, et à la fois d'après la théorie, les nouvelles théories, enfin, elles ne sont plus très nouvelles non plus, mais les théories qui sont développées ensuite, que ce soit la théorie des aimants perceptifs ou le speech learning model ou d'autres, ont complexifié encore une fois cette relation, et notamment le. La manière dont moi j'aime bien l'exprimer, qui sort de ces théories-là, c'est pas moi qui les invente, c'est de dire que ce qui va être important finalement, c'est la distance que l'on va percevoir entre les sons eux-mêmes. Donc plus des sons vont être perçus comme très différents, parce qu'ils sont différents articulatoirement, ou perceptivement, ou acoustiquement, ça va être beaucoup plus facile pour le cerveau de les dissocier. Alors, bien sûr, il va y avoir au début un phénomène de crible phonologique, de rapprochement des unités. Mais dès le début, si on travaille dessus et qu'elles sont perçues comme distantes, encore une fois, soit en termes articulatoires, soit en termes perceptifs, soit en termes articulatoires, ça va être plus facile de créer des catégories différentes. Donc, finalement, c'est quelque chose qui va partiellement à l'inverse du crible phonologique qui nous dit tout ce qui est différent de la langue 1 va être difficile à apprendre. Ce que nous disent ces nouvelles théories, c'est à partir du moment où je suis capable de percevoir qu'il y a une distance entre ces deux sons, je vais être capable de créer des catégories. Et je donne toujours cet exemple que moi, j'ai beaucoup aimé. Alors, j'ai été formé à la phonétique par Jacqueline Vessière, donc qui fait beaucoup de lectures de spectrogrammes. Et donc, on travaillait justement sur le « u », le « ou », etc. Et elle nous disait que le « ou » phonétique, je ne parle pas de phonologie ici, phonétique espagnol, est acoustiquement plus proche du O que du OU français. Voilà, pour des questions phonétiques, bon, je ne vais pas revenir dessus. Et elle nous disait que voilà, du coup, ça pouvait poser des difficultés quand on fait apprendre certains sons du français chez les hispanophones. Bon, je disais oui, d'accord, je ne comprends pas trop ce que ça veut dire, mais oui. Et j'ai eu un groupe, une année, c'était génial, donc un groupe multiculturel avec des hispanophones, des Brésiliens, donc ils parlaient brésilien-portugais, et puis d'autres nationalités. Mais j'avais plusieurs hispanophones et donc des locuteurs du portugais brésilien. Et donc, on travaillait sur l'opposition « u » « ou ». Et finalement, ils y arrivent très rapidement. Voilà. Donc, mais alors, je précise, c'était des exercices, comme on disait tout à l'heure, behavioristes, donc qui ne sont pas en contexte, ils sont des sons isolés. Et donc, sur des sons isolés, c'est assez facile de faire produire très rapidement des oppositions de ce type-là. Donc, on faisait comme ça des petites paires minimales, etc. Et donc, ils font le U, le OU, et le U, ils arrivent très rapidement. Je leur fais, c'est super, voilà, vous y arrivez. Hein. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une étudiante, je crois, qui commence à produire le OU comme un O, donc, à cause de ce que je viens de dire. Donc, elle avait mis en place le U, mais du coup, ça avait déstabilisé le reste. Donc là, on revient sur la théorie des systèmes dynamiques, etc. Et donc, elle n'arrivait plus à prononcer de « ou », elle les prononçait comme des « o ». Et donc, elle venait de créer à un moment donné donc, un nouveau système qui n'était pas vraiment celui du français, pas vraiment celui de l'espagnol, parce qu'elle n'était plus capable de produire le « ou », elle produisait le « ou » comme un « o », mais elle produisait le « u ». Et ce que j'ai encore plus aimé, c'est le phénomène de contamination. C'est-à-dire que tous les hispanophones ont commencé à faire ça aussi. Et donc, ça a été un moment, voilà, pour moi, assez drôle de voir que... Alors déjà, ça nous rappelle des réalités, comme tu le disais tout à l'heure, de la complexité, de la variation, que finalement, quand on va venir déstabiliser quelque chose à un endroit, ça va poser des problèmes à un autre endroit, la fameuse théorie du du papillon, l'effet papillon. Et voilà, donc en tout cas, cette notion du crible phonologique, elle est à mon avis intéressante parce qu'elle simplifie les choses, mais il me semble important quand même de comprendre que derrière, il y a des mécanismes à nuancer et beaucoup plus complexes.
Tout à fait, et ça montre vraiment clairement que la prononciation, c'est un système qui est complexe, mais qui se stabilise très peu. Il y a aussi beaucoup d'attrition, on s'accommode aussi, on prend l'accent l'un de l'autre. Donc, c'est un système qui est très, très dynamique. Donc, en tant que prof de FLE, il faut être patient aussi. C'est ce que tu veux dire. En fait, on peut travailler sur quelque chose en isolation, mais ça ne veut pas dire que ça va être repris dans les conversations de tous les jours. Mais avec de la patience et avec beaucoup de production, d'écoute, etc., finalement, chacun peut... à l'opportunité de trouver son propre accent.
Tout à fait. Alors ça, c'est quelque chose qui a été aussi relativement bien théorisé, notamment les premiers verbotonalistes, Renard notamment, a bien précisé. Alors lui, il appelait, je crois, maturation. Voilà, il fallait laisser maturer les choses. Donc ce qui voulait dire prendre le temps. Tu disais oui pour les enseignants, donc je pense que c'est important, mais ça rejoint d'autres principes, notamment, encore une fois, de l'approche par tâche, de dire que de trop corriger, de surcorriger les formes va poser des difficultés aussi dans cette sécurité, dans les réalisations. Mais c'est aussi et principalement parce que, bon, on parle de language teaching and learning ou de didactique des langues enseignement-apprentissage, mais le but de tout ça, c'est l'apprentissage. Et donc, il me semble qu'il faut surtout rassurer les apprenants, de leur dire que ça prend du temps, que ce n'est pas grave. Et surtout, ce que nous rappelle aussi la théorie des systèmes dynamiques, c'est que la relation entre la cause et l'effet est non linéaire. Et donc, on peut faire quelque chose à un moment donné et limite perturber beaucoup plus l'apprenant, mais qu'une semaine, deux semaines, trois semaines, un mois après, ça fasse un déclic et c'est le moment où on va avoir une rupture et les choses vont se mettre en place. Mais ça se passe d'autant mieux quand l'apprenant est rassuré et qu'il sait qu'il faut prendre du temps et que les choses se font petit à petit. Et juste, si je peux donner un autre petit exemple, c'est ressorti là d'une nouvelle étude que l'on a faite avec une collègue, avec Laurence Vigne, sur des enseignants, des jeunes enseignants débutants en français langue étrangère, donc qui étaient en formation continue. Et donc, on faisait des entretiens biographiques et il ressort que en Roumanie, le refrancé, donc uvulaire roulé, est quelque chose qui est... surtravailler. Enfin, c'est quelque chose qui, dans les représentations, ressort beaucoup et ils veulent beaucoup le travailler. Et ça, donc, ça m'a rappelé une étudiante que j'avais justement en français langue étrangère, roumaine, qui est venue me voir un jour à la fin d'un cours et qui me dit « Monsieur, je veux faire le R français ». Je suis d'accord, très bien. J'ai fait « Bah, tous les soirs, quand tu es chez toi, pendant deux minutes, tu fais « Voilà. Et donc, c'était tellement important pour elle qu'elle l'a fait tous les soirs. Et une semaine... après, elle vient me voir et elle me fait voilà, et elle parle français en roulant le R. Mais du coup, elle le surroulait parce qu'en réalité, le français, en français, hors début de mot, on est plutôt sur un re palatal, donc un rrr, enfin un rrr, quelque chose comme ça plutôt qu'un rrr, roulé. Et donc, elle parlait, donc par exemple, elle disait terrestre, ce genre de choses. Et voilà, donc bon, elle, c'était son but. Après, j'ai essayé de l'aider à désuvulariser le R. Donc, l'uvule, c'est ce qu'il y a au fond de la gorge qui nous permet de faire R. Mais ça montre, et c'est ce que tu dis, c'est aussi de prendre le temps. Parce que là, elle a travaillé, même surtravaillé, surcorrigé. Donc, elle a produit quelque chose qui était surfait par rapport à un français spontané. Et donc, ça demande là aussi du temps de venir, revenir, revenir après, modifier les choses. Et c'est, comme tu le disais, quelque chose de dynamique et qui nécessite, et c'est ce que j'ai théorisé dans mon livre, le principe de médiation de la prononciation. Alors, médiation, il y a beaucoup de critiques autour parce que c'est quelque chose de très à la mode. Mais finalement, si on enlève le mot lui-même, ce qui est important derrière, c'est toujours cette idée d'accompagner l'individu. Comme tu le disais tout à l'heure, en termes d'identité, en termes de prendre le temps, parce que ces choses-là se font de manière non linéaire, dynamique, et on n'a pas toujours la maîtrise du lien entre la cause, l'effet et la conséquence.
Je pense que c'est un très bon résumé, ce que tu viens de dire. On va terminer sur ça d'ailleurs. Merci beaucoup, Grégory.
Merci à toi, Audrey. C'était un plaisir.
Et pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à aller lire ce livre didactique de la prononciation en langues étrangères, de la correction à la médiation par Grégory Miras aux éditions Didier. Il y a aussi pas mal d'exemples d'exercices de prononciation et j'ai beaucoup rigolé. Voilà. Et maintenant, c'est moi dynamique. Qui n'arrive plus à prononcer. J'ai beaucoup rigolé avec tes conseils pour faire français. Donc, prof de FLE, si vous êtes intéressé, prof et étudiant en FLE, oui. Allez lire son livre. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, au revoir.
Vous voulez participer au podcast ? Regardez quel thème sera abordé dans le prochain épisode sur le site etc-languagelearning.web.rug.nl et envoyez-moi la question que vous voudriez poser à l'expert. Ciao tout le monde, à la prochaine !